Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Naz avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Nous y sommes, premier samedi du mois de mars, le rendez-vous de la biodiversité samedi, ce 4 mars. Chaque mois, je vous rappelle qu'une thématique forte, un enjeu de biodiversité, un expert, sont invités par le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Et aujourd'hui, nous invitons Emmanuel Le Horteux du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire. Il vient nous parler des espèces exotiques envahissantes. Bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel.
Alors, je vous propose de vous présenter, Emmanuel Le Horteux, de présenter aussi le CEN.
Donc, le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire est une structure qui va travailler pour préserver, notamment par la maîtrise foncière, et gérer les milieux naturels en Pays de la Loire.
Alors vous, quel est votre parcours ?
Alors moi, du coup, je suis ingénieur en agriculture. Ensuite, j'ai intégré un centre permanent d'initiative pour l'environnement, sur déjà la gestion des milieux, la prise en compte de la biodiversité, un passage sur le développement des énergies renouvelables, et un retour à mes premiers amours pour la préservation de la biodiversité au sein du Conservatoire d'espaces naturels.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un expert. Évidemment, le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf ne choisit pas ses thèmes ou ses invités par hasard. En quoi, justement, le thème des espèces exotiques envahissantes est pertinent avec vous comme expert ?
Parce que je pense que cette thématique, quand on s'intéresse à l'état de santé de nos milieux naturels, est en fait une sorte de catalyseur pour comprendre les relations que peut avoir l'homme avec le milieu naturel.
Alors, on va découvrir ensemble ce que sont ces espèces exotiques envahissantes. Quelles sont-elles, justement ?
Alors, une espèce exotique envahissante est une espèce qui a été déplacée par l'homme, dans tous les cas. Elles n'ont rien demandé à personne. Elles ont été déplacées d'une zone de biosphère mondiale à une autre zone. Et elles ont, le fait de les déplacer, se retrouvent dans un autre milieu où elles vont devenir plus concurrentielles. Donc elles ont un comportement dit envahissant, bien que intrinsèquement elles ne soient pas envahissante, puisque on a des espèces ici en Pays de la Loire qui viennent des différents continents, et en même temps on a des espèces ici indigènes des Pays de la Loire qui ont un caractère envahissant sur ces mêmes continents d'origine. Donc il y a des échanges en fait qui sont assez nombreux. Elles ont notamment une dynamique colonisatrice qui est remarquable, c'est-à-dire qu'elles vont être favorisées dans des milieux nouveaux. C'est-à-dire à partir du moment où on va avoir de la terre à nu, on remet de la terre à nu, où on va créer des milieux assez nouveaux, elles vont prendre la place assez rapidement par rapport aux autres espèces, et c'est là que souvent les dynamiques d'invasion biologique sont les plus fortes.
Est-ce qu'on peut donner des exemples ? On parle d'espèces, ce sont aussi bien des espèces végétales qu'animales ?
Alors tout à fait, végétales, animales. Pour prendre quelques exemples sur les végétaux, alors ici sur le marais breton, on entend beaucoup parler des jussies. Alors je dis des jussies parce qu'il y a deux espèces qui ont elles-mêmes des comportements assez différents. Et puis pour parler des espèces animales, eh bien notamment le ragondin qui est bien connu ici. Et puis on a des dynamiques avec de nouvelles espèces qui arrivent en permanence. Et là on parle de plus en plus de la crassule de Helms qui vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie, et qui, là, commence à se développer de manière assez importante dans le nord du marais breton et qui va certainement descendre. Ouais.
J'ai une question quand même, on sait d'où elles viennent, par exemple la jussie, comment l'homme et qui l'a introduit ?
Alors, dans 60% des cas, les introductions sont volontaires, et notamment par les filières horticoles, donc aquariophilie ou horticulture terrestre. Et du coup, on retrouve assez facilement les filières et leur milieu d'origine.
Et alors, nos petits amis, les ragondins, quand je dis petits, en ce moment, ils ne sont pas très petits.
Alors, pour ce qui est des ragondins, oui, l'origine nord-américaine, si je ne me trompe, ils ont été importés notamment dans le cadre d'élevage, ils étaient utilisés notamment par rapport à l'utilisation de leur fourrure, pour réaliser des manteaux de fourrure. Les élevages se sont arrêtés il y a déjà bien longtemps, et les ragondins, par contre, ont pris toute la place dans les milieux. Oui.
Alors, justement, ce qui est important aussi, c'est la date d'introduction d'une espèce exotique invasive pour la prendre en compte.
Effectivement, parce que, en fait, des échanges à l'échelle mondiale, il y en a toujours eu, mais on estime qu'une espèce est dite exotique envahissante pour toutes celles qui ont été introduites après 1500, ce qui correspond à peu près à la découverte des Amériques par Christophe Colomb, puisqu'on estime qu'à partir de ce moment, les échanges internationaux ont été beaucoup plus importants, beaucoup plus denses. Par exemple, des espèces telles que le châtaignier, qui est une espèce exotique, était déplacé par l'homme, mais 2000 ans avant Jésus-Christ, il est arrivé en Dordogne, je crois, et du coup, on ne considère pas qu'elle est exotique envahissante.
Et le terme envahissant, il est important aussi, hein, l'invasion, voilà, il y a un jugement, on va dire, dans sa présence sur le territoire.
Exactement, et comme je disais tout à l'heure, une espèce n'est pas intrinsèquement invasive, c'est le fait de l'avoir mis dans de nouvelles conditions qui la rend envahissante, et c'est pourquoi on parle de plus en plus de dynamique d'invasion biologique plutôt que d'espèce exotique envahissante, puisque pour la même espèce, je prends l'exemple encore une fois des jussies bien connues ici, je peux la retrouver dans un milieu plutôt très pauvre en éléments nutritionnels, elle va pas avoir du tout de comportement envahissant. Et lorsqu'on la trouve dans des milieux comme ici en marais breton, avec des niveaux trophiques importants, elle va avoir des comportements envahissants.
Alors, l'info aussi à retenir, c'est que toutes les invasions biologiques sont liées aux activités humaines, vous l'avez dit.
À 100%, aussi bien sur le fait de les avoir déplacées d'une zone du globe terrestre à une autre, que sur le fait, entre guillemets, de les favoriser. On se rend compte que la plupart des problématiques sont dans des milieux qui ont été fortement aménagés, voire perturbés par l'homme.
Quels sont les enjeux de ces invasions biologiques? Quelles règles aussi ont été mises en place pour les contrer? On va faire une petite pause musicale et on vous retrouve, Emmanuel Le Horteux et les auditeurs, évidemment, dans quelques minutes.
Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Stop talking to people before I snap. Snap in one, two. Where are you?
Vous êtes bien sur 9FM dans la biodiversité samedi. Nous parlons aujourd'hui des espèces exotiques dites envahissantes avec Emmanuel Le Horteux du CEN, le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire. Alors pourquoi s'intéresser justement à ces invasions biologiques? C'est qu'il y a des enjeux, ils ont été identifiés. Déjà des enjeux liés à la biodiversité?
Oui, tout à fait. Alors selon l'Union internationale de la conservation de la nature, ce serait même la deuxième raison de disparition des espèces. Peut-être pas en Pays de la Loire, mais souvent les impacts sur la biodiversité biodiversité. Alors pour les végétaux, c'est souvent une concurrence à la lumière, puisque les espèces dites envahissantes vont prendre beaucoup de place et faire disparaître celles qui étaient en dessous. Ça peut être des concurrences sur la niche écologique, hein, notamment pour plusieurs espèces animales qui vont en fait trouver des lieux pour se reproduire, pour manger, qui vont être les mêmes que d'autres espèces et amener une forte concurrence. Et puis pour certaines, elles vont être porteuses de maladies qui vont pouvoir transmettre à des espèces indigènes, et ces aspects sanitaires sont aussi à prendre en compte.
Et exemple concret, voilà, en Pays de la Loire, dans les marais, à la Justie, pourquoi s'y opposer? Pourquoi lutter contre sa prolifération?
Alors c'était une très bonne question, c'est même la meilleure des questions, cette question du pourquoi. Et je dirais qu'il n'y a pas une réponse générale, puisque cette réponse au pourquoi, à c'est quoi le problème en fait, va dépendre de chaque contexte et de chaque cas particulier. Sur le marais breton, les enjeux, je dirais, sont plus limités, notamment sur les aspects agricoles, que sur d'autres marais plus humides, où là, on va avoir la Justie à grandes fleurs, qui va développer des formes terrestres sur prairies. Et dans ce cas-là, notamment en Brière, par exemple, ou sur Grandlieu, il va faire disparaître les graminées, et du coup, remettre en cause toute l'activité de l'élevage. Et donc là, il y a un risque qui est lié à l'élevage, et du coup, un enjeu de maintien de l'élevage par rapport à ça. Sur le marais breton, c'est différent, c'est au niveau des canaux, donc sur des aspects d'écoulement hydraulique, d'envasement, et puis aussi potentiellement, mais ça va dépendre des endroits, de perception liée au paysage.
J'ai envie de vous poser une question sur le ragondin. Finalement, on a plein d'animaux dans le marais qu'on préserve aussi, qu'on protège, mais celui-là, on n'a pas très envie de le protéger.
Alors, encore une fois, ça va dépendre des histoires de perception, par qui, puisque effectivement, dans certains secteurs, le ragondin va avoir des impacts, notamment sur la stabilité des berges, d'autant plus quand les berges sont assez abruptes, et du coup, il va creuser des terriers qui vont faire que les berges vont s'effondrer, et ça va être perçu comme quelque chose qui va pas dans le bon sens par rapport aux morphologies qu'on souhaite avoir dans le marais. Il peut être porteur, et il est porteur aussi de la leptospirose, hein, d'un point de vue sanitaire, hein, qui peut atteindre à l'homme, mais je dirais comme tous les mammifères aquatiques, tous les rongeurs aquatiques, pardon, comme peut être le castor et autres, mais on sait que les populations de ragondins sont beaucoup plus importantes que celles du castor, peut avoir une pression également sur les végétaux, sur les roselières. Donc c'est un ensemble, je dirais, d'impact sur le milieu qui fait que l'espèce est peu appréciée. Et en même temps, quand on s'approche des zones urbaines, eh bien là, ce rongeur aquatique est plutôt sympathique à la perception des urbains qui le retrouvent dans les parcs et auxquels ils peuvent approcher assez facilement.
Je vous ai fait un petit peu digresser, hein, sur au départ le plan. On parlait des enjeux liés évidemment à ces invasions, biodiversité, on l'a entendu, enjeux économiques identifiés également.
Alors oui, alors déjà par les actions dites de lutte historiquement, puisque la volonté quand il y a des espèces exotiques envahissantes, c'est d'intervenir pour les enlever, et ça peut amener à des actions qui sont souvent très coûteuses dans le temps, et puis également économiques sur des impacts liés à des activités. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'élevage en milieu de marais humide, où effectivement la concurrence de la Justie par rapport aux graminées peut amener à faire disparaître l'élevage. Oui.
On a entendu aussi, avec l'exemple du ragondin, l'aspect sanitaire, l'enjeu de santé publique.
Oui, alors pour certaines espèces, donc je l'ai cité sur le ragondin par rapport à l'héptospirose, ça peut être le cas aussi de certaines espèces telles que les ambroisies, par rapport à des aspects d'allergie. On est encore un peu épargné en Pays de la Loire, bien que dans un secteur de la Sarthe et puis un petit peu du côté de Montoire, il y ait des foyers qui se développent, mais c'est particulièrement surveillé aujourd'hui. Oui.
Et vous prenez aussi en compte l'enjeu de perception sociale, vous l'avez aussi un peu évoqué avec le ragondin.
Alors cet enjeu est déterminant, puisque comme je vous l'ai dit, pour la même espèce, on peut avoir des perceptions qui vont être différentes d'un acteur à un autre. Et comme toutes ces espèces-là ont été introduites et sont, entre guillemets, favorisées par les activités humaines, le rôle de l'homme va être déterminant pour justement être en capacité de gérer ces espèces. Et du coup, la prise en compte de leur perception est déterminante. Je vais prendre un exemple assez simple. D'un côté, le raton laveur, qui est une espèce qui était la mascotte, hein, souvent des Américains qui avaient des bases en Europe, hein, suite à la Seconde Guerre mondiale. Certains sont restés ici et commencent à développer des populations assez importantes. Le raton laveur, qui représente la petite peluche très sympathique, qui utilise bien ses mains, un capital sympathique est très important, et pour réguler le raton laveur, eh bien ça peut même être compliqué, parce que derrière, eh bien de réguler, entre guillemets, cette espèce-là peut toucher certaines sensibilités et on peut tout à fait le comprendre, moi le premier. Et puis, de l'autre côté, je prends l'exemple du frelon asiatique. Alors là, déjà, c'est un hyménoptère qui pique, donc on n'aime pas trop. En plus, il est tout noir, il fait un peu peur. Il vient de l'Asie, donc un peu le fantasme du péril jaune. Alors lui, du coup, délit de faciès total, il a pas de bol. Et par contre, là, les comportements vont être beaucoup plus démonstratifs avec un piégeage systématique de printemps, qui a prouvé son inefficacité par rapport au frelon, mais qui peut avoir des impacts, lui, sur les espèces indigènes. Et du coup, on voit que vis-à-vis de ces deux espèces, le comportement humain va être totalement différent. Et parfois, c'est même le comportement humain qui va être le plus impactant pour le milieu.
Ah ben moi, je pense à Candy, hein, quand vous dites le raton laveur. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui pensent à elle aussi. Face aux espèces exotiques envahissantes, eh bien, des réglementations sont mises en place, hein, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale.
Alors, c'est avant tout à l'échelle européenne, donc dans le cadre du règlement européen en 2014, qui a permis de mettre un coup d'accélérateur justement à ces aspects réglementaires. Comme je vous le disais, toutes les espèces sont liées à des activités économiques. Du coup 2014 et puis du coup une stratégie nationale qui est arrivée en 2017 et aujourd'hui donc le règlement européen interdit toute une liste d'espèces, elles sont au nombre de 88 qui sont déclinées dans le cadre de la réglementation nationale.
Alors comment justement localement des collectivités agissent aussi, se sont emparées du sujet, mais on en parle dans 3 minutes avec vous Emmanuel Le Heurteux.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les man, faut faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone.
Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, rien ne te retient, va vite faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas, ici tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières.
D'une rivière,
écoute le bruit de l'eau sur la terre.
Dis-toi qu'au bout, il y a la mer.
Et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie marine, du monde animal. Crie le bien fort.
Assieds-toi pris dans vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le saigne.
Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières.
Peut-être que je pars pour ne rien dire. Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires.
J'aimerais pour tous les animaux
que tu captes le message de mes mots.
Car un lopin de terre,
une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots.
C'est l'hymne de nos campagnes.
Dans la la biodiversité samedi. Aujourd'hui, nous parlons des EEE, les espèces exotiques envahissantes, prises en compte par évidemment les collectivités. Nous évoquions des réglementations européennes, nationales, avec Emmanuel Heurteux du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire. Alors justement, en Pays de la Loire, que font les collectivités? Certaines ont pris ce sujet aussi à bras-le-corps.
Ont été contraintes de le faire, puisque face à la pression de plusieurs professions, usages, il était nécessaire de réagir, et les Pays de la Loire sont particulièrement concernés, notamment les grandes zones de marais. Pays de la Loire particulièrement concernés, puisqu'il y a une densité de population très importante, des réseaux hydrographiques importants, un grand port, des échanges commerciaux assez denses. Donc c'est pas un hasard si les Pays de la Loire sont concernés. Et c'est pour ça que dès 2001, en fait, les différents gestionnaires des milieux, notamment des zones de marais et de cours d'eau, se sont réunis, animés par la DREAL, structure de l'État à l'échelle régionale. Donc c'était Roland Matra, s'il nous écoute, qui était cette initiative, avec certains gestionnaires, pour échanger sur les expériences de gestion d'espèces exotiques envahissantes. Et ces échanges ont été poursuivis, et le conservatoire a repris l'animation de ce réseau en 2016. Et aujourd'hui, on est un des réseaux régionaux à l'échelle nationale les plus actifs. Oui.
Alors, quelles sont les décisions qui sont en priorité prises, et quelles sont d'ailleurs, d'après vous, les bonnes décisions à prendre dans un panel de possibilités?
Encore une fois, merci Emmanuel pour cette question, parce que c'est vraiment le centre de la problématique. C'est, on essaie de dépasser le fait que lorsqu'on est face à une espèce exotique envahissante, on baisse la tête et on veut essayer de la supprimer, de l'éradiquer. On sait que l'éradication n'est possible que dans quelques pourcentages des cas, mais très rarement envisageable. Du coup, pour autant, il n'y a pas rien à faire. Et là, c'est là qu'on apporte justement une méthodologie pour avoir du discernement, pour être en capacité, en fait, de répondre à un problème. Donc, il faut être en capacité d'identifier le problème pour essayer justement d'atténuer, voire faire disparaître le problème. Donc, la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi agir, c'est la bonne question. Et nous, on la transforme, c'est quoi le problème, ou ce sont quoi les problèmes à chaque cas et lorsqu'on est sur le terrain. Et le problème pour une même espèce, si je suis par exemple dans le nord de la Loire-Atlantique ou en sud Vendée, eh bien je suis face à une même espèce, mais le problème peut être totalement différent, et du coup va appeler une stratégie qui va être totalement différente.
Alors justement, quelques exemples de stratégies.
Alors je peux prendre l'exemple encore une fois local ici, notamment sur la gestion de la Jussie. Il y a quelques années, ces questions ont été reposées en fait par rapport à la Jussie, puisque les actions traditionnelles, c'était de venir arracher la Jussie, venir curer les canaux pour enlever la Jussie. Et en fait, par ces actions-là, par moment, on voulait faire très bien, voire trop bien, et on mettait des canaux de manière un peu trop propre. Et du coup, on remettait à nu tous les canaux, on enlevait les roseaux qui étaient présents, on remettait tout bien propre. Et comme je le disais tout à l'heure, ces espèces sont des espèces colonisatrices. Donc le fait de mettre tout à nu les favorisait. Et du coup, ces actions pour tenter de la gérer avaient tendance à augmenter le problème. Et du coup, plusieurs collectivités élues du secteur, dont même le maire du Perrier, on a travaillé ensemble avec les agriculteurs. Et du coup, le problème identifié a été justement ces entretiens réguliers par rapport à l'envasement, et d'essayer de trouver justement un milieu un peu plus équilibré. Et aujourd'hui, l'objectif qui est bien clairement identifié sur ce marais, on parle quasiment plus de Jussie, mais on parle de reconquête de la roselière. Donc l'objectif est quand même tout autre, et on sait que là où la roselière se réimplante, eh bien la Jussie est totalement régulée et beaucoup moins présente.
Il y a bien d'autres actions possibles que l'arrachage, ou d'ailleurs, pour parler des espèces animales, le piégeage.
Oui, tout à fait. Alors sans les opposer, parce qu'en fonction du problème qu'on a identifié, de l'objectif que l'on vise, eh bien des actions de régulation par arrachage ou piégeage et de restauration de milieu sont tout à fait souvent complémentaires. Et il faut souvent passer par des actions régulation, arrachage, piégeage au départ, pour ensuite accompagner. Je prends souvent cet exemple un petit peu comme notre santé humaine, c'est qu'à un moment, eh bien, on est envahi par une bactérie, il faut l'antibiotique, mais si on reste au niveau de l'antibiotique, eh bien, à un moment, il faut reconstituer la flore bactérienne de notre système digestif pour que les choses retrouvent un réel équilibre. C'est exactement la même chose par rapport aux dynamiques d'invasion biologique.
On restaure d'abord le milieu.
Alors, souvent, ça va de pair. Le traitement curatif avec la restauration vont souvent de pair. Ce qui est important, c'est de se donner des perspectives d'équilibre du milieu pour éviter de créer un petit peu on parle de puits sans fond ou de systèmes totalement récurrents qui vont s'auto-alimenter qui ne vont avoir comme résultat que des grosses dépenses publiques. Là encore, on a besoin de moyens, mais il faut bien identifier un objectif à long terme de rééquilibrage des milieux.
Pour en savoir plus, pour mieux comprendre évidemment ce phénomène et ces phénomènes au pluriel, où est-ce qu'on peut trouver des informations, des conseils ?
Alors du coup, on peut vous inviter à aller sur le centre de ressources espèces exotiques envahissantes au niveau national, qui est co-animé par l'Office français de la biodiversité et l'Union internationale de la conservation de la nature. Vous allez retrouver toutes les informations, si bien d'un point de vue réglementaire, d'expérience de gestion, où vous tapez le nom d'une espèce et vous avez tous les éléments qui sont liés à cela, les différentes manifestations. Et puis ensuite, nous à l'échelle régionale, on est là également pour vous accompagner avec un réseau qui a été structuré, le CEN en assure l'animation, mais on va retrouver le Conservatoire botanique national de Brest qui est le référent flore, l'Office français de la biodiversité, l'échelle régionale qui va être le référent sur tout ce qui va être mammifères et oiseaux, et puis l'association régionale des fédérations de pêche des Pays de la Loire sur les espèces animales aquatiques. Et on ajoute là un nouveau réseau, du coup sur les espèces marines, donc le réseau Alien Grand Ouest. On a des discussions et qui est en train de nous rejoindre pour prendre en compte les espèces également sur le littoral et marine.
J'ai bien entendu Alien.
Voilà, alors, on y revient toujours sur cet aspect de perception, sachant que, je réinsiste, toutes ces espèces ont été déplacées volontairement par l'homme et ont plutôt tendance à être favorisées par l'état de perturbation des milieux.
Merci beaucoup Emmanuel Hurtel. Alors vous savez, j'ai toujours cette dernière question un peu standard cette année. La biodiversité, on la préserve, on la défend. Oui, mais comment et à côté de quoi, d'après vous, on ne doit pas passer pour lutter contre son déclin ?
Alors, quand on veut préserver la nature et la biodiversité, effectivement, on s'intéresse avant tout à la nature et à la biodiversité, aux espèces qui la composent. C'est le propre des différents naturalistes. Je pense que si on veut vraiment trouver les leviers pour trouver une nature en meilleur état, il faut aussi travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur l'homme. Puisque, comme je le disais, si on a des problèmes sur la nature, c'est au regard des activités humaines. Donc, si on trouve des solutions, c'est au regard de l'évolution des activités humaines. Et je pense qu'il y a un moment, il faut être en capacité de faire le lien entre l'homme et la nature, et c'est ça qui va nous permettre justement de trouver, je le pense, un meilleur équilibre.
Je termine toujours en disant mon admiration sur ces réponses éclairées et passionnantes. Merci infiniment. On va retrouver l'émission en podcast sur le site et l'appli de Nov en rubrique tout simplement la biodiversité samedi. Et puis on vous retrouve dans un mois, chers auditeurs, pour une nouvelle émission. Très bon week-end.
Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, défaites.